Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on n'a que les mains, on n'a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
La plus belle.
Hola, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Canu. Il est l'heure d'un Canu Info. Nous sommes le jeudi 28 février 2019 et au micro jaune, nous avons Laurent.
Et au micro jaune, nous avons Delphine.
Et oui, nous avons des petites bobettes qui sont toutes de la même couleur. Alors ce soir, on va vous parler de plein de choses. Nous irons faire un tour du côté du Vatican, de l'Algérie, de cet échec à Hanoï au Vietnam. Nous parlerons révisionnistes, escrocs, tout ça. On ira voir du côté des antivax et flexitariens et tout ça. Nous ferons un petit peu de l'information locale avec la pollution du label et des élections. Tout ça, c'est très chouette. On ira du côté d'un sujet qui nous parlera du travail qui tue. Et oui, ça arrive. Et puis, on terminera peut-être par un sujet sur ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais d'abord, j'avais envie, moi, de vous parler d'une locution. Ça va être la locution de la semaine et de la soirée. J'ai envie de vous parler de « En marge ». En marge de, c'est en dehors de, à l'écart de, à côté de. Et on l'entend beaucoup ces derniers temps dans la presse, dans les médias, à la télé, à la radio. On le lit surtout beaucoup dans la presse. Et c'est à la presse que je me suis intéressée. Alors je suis allée tout simplement sur Internet. Parce que ce mot en marge de, on l'entend souvent quand c'est lié à des manifestants et à des manifestations. C'est toujours en marge de. Alors on sait plus bien ce que ça veut dire. C'est un peu comme quand tout le monde disait du coup. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, on le dit coup. Un peu moins maintenant. Alors après je vous proposerai un petit jeu si vous voulez bien. Mais d'abord ce que j'ai un peu pu trouver, c'est par exemple sur le JDD.fr un article du 16 février qui nous dit gilets jaunes 2. C'est le titre. Hein. Alain Finkielkraut victime d'insultes antisémites en marge du cortège parisien. Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été victime de propos antisémites ce samedi en marge de la manifestation des gilets jaunes dans le quartier de Montparnasse à Paris. Ça, c'est, vous savez, le chapeau. Ensuite, francebleu.fr, ça date du 16 février, pareil. À chaque fois, évidemment, c'est sur hein, les fameuses journées actes des manifestations. Gilets jaunes, sainte interpellation en marge de la manifestation à Strasbourg. Je vais faire que les titres hein, la plupart du temps parce que ça se suffit. On a pu lire aussi sur le Figaro le 26 février. Alors là, c'est pas dans le titre, mais le titre, l'article vaut le pesant de cacahuètes, si vous me permettez l'expression. Le titre, c'est Gilets jaunes jaune, deux points, des bombes d'excréments auraient été jetées sur les forces de l'ordre. Vous étiez pas au courant ? Allez lire l'article, c'est sur le figaro.fr. Ça a été publié le 25 février avec une mise à jour le 26 février. Un syndicat de police, l'UNSA Police SDSS, pardon, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça, il fallait l'inventer quand même, dénonce l'utilisation par les manifestants de bombes d'excréments qu'ils auraient jetées sur les forces de l'ordre en marge de l'acte 15 des Gilets jaunes. Cette méthode présenterait un risque sanitaire, pardon, j'ai pas résisté d'aller plus loin alors que les manifestants se font défoncer la face, il faut le dire quand même, comme ça, se prennent des lacrymos, lanceurs de balles, se font arracher des yeux, excusez-moi, là il y a du risque sanitaire sur des bombes d'excréments. Je m'éloigne un peu de mon sujet de En Marche d'Homme, et quand même il fallait dire un petit peu cet article du Figaro magnifique. Sinon j'avais trouvé sur LCI.fr dans la rubrique police, oui, bah, parce que quand on parle des gilets jaunes c'est souvent dans la rubrique police maintenant, il faut aussi analyser ce genre de choses. Gilets jaunes, un fourgon pénitentiaire pris à part samedi par les manifestants à Paris, ça c'est le titre, et c'est tout de suite heure en marge de la mobilisation des gilets jaunes samedi à Paris. Un fourgon pénitentiaire a été visé par des manifestants dans la capitale. 20minutes.fr nous fait le coup aussi du fourgon pris à partie avec En Marge de l'acte 13, indique un communiqué du ministère. Et puis moi, j'ai pas résisté évidemment à aller chercher un petit peu ce que pouvaient dire nos élus chefs au gouvernement. Je sais plus bien comment il faut les appeler, ces braves gens. Christophe Castaner, sur son compte Twitter, qui a gazouillé. La violence, toujours, les exactions commises en marge des rassemblements de Clermont-Ferrand, Rouen, Montpellier sont intolérables. Bon, il salue, hein, il en profite pour saluer les forces de l'ordre, ouais. Parce que ça, évidemment, il faut saluer. Ce qui est intéressant, c'est En Marge d'eux, c'est pas nouveau. On l'a eu hein, sur toutes les manifestations des mouvements sociaux précédents. Mais on comprenait pas bien pourquoi, par exemple, les gens sont En Marge d'eux. Alors, surtout sur un mouvement sur les Gilets jaunes, où c'est des mouvements qui sont très rassembleurs de gens, qui sont très différents, et puis très différents d'une ville à une autre. Mais à l'époque, quand c'était contre les retraites, on avait déjà les casseurs sont En Marge d'eux. Alors ça nous faisait bien rigoler, nous, ici, parce que qu'on dise des gens qui ne sont pas à la CGT, parce que souvent une manifestation est à l'appel de la CGT, par exemple, déposée en tout cas souvent par quelqu'un de la CGT dans un certain nombre de villes en France, des gens qui ne sont pas de la CGT ont attaqué à coups de bouteilles en verre des forces de l'ordre. Un collectif groupe de féministes devant le cortège syndical a arrosé de peinture rose les CRS, on l'avait vu à Lyon. C'est une manière d'établir des faits. Mais dire En Marge d'eux, en quoi les féministes qui ont peinturé, parce qu'elles l'ont fait, de rose les CRS seraient en marge de la manifestation? Elles ne sont pas en marge, elles sont à côté, avec,
dedans.
Autour, dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand je dis à côté, c'est pas pour dire justement En Marge d'eux, c'est qu'elles sont... devant une autre banderole, vous voyez, c'est-à-dire que les cortèges sont quand même très séparés, on peut pas dire le contraire. Mais ce En Marge d'eux, on sait pas bien ce que ça veut dire. Moi, je trouve que c'est presque limite toujours insultant. C'est-à-dire, déjà, on voudrait prétendre que les casseurs, ce serait pas les syndicalistes. Parce que, alors ça, moi, je veux bien qu'on mette deux fois un petit peu en question.
Oui, puis là, du coup, c'est pareil, c'est des manifestants, mais dès qu'ils font une action illégale, ils deviennent en marge, en fait.
C'est plus les mêmes.
C'est plus les mêmes.
Et puis alors, c'est toujours curieux. Alors, pour vous dire à quel point c'est ridicule, ce En Marge d'eux, parce que c'est pas pendant la manifestation, ce qui reviendrait à dire qu'on sait pas qui c'est pendant la manifestation. Et puis, on veut, c'est une manière un petit peu de criminaliser un certain groupe plutôt qu'un autre, et nous, on n'aime pas trop ça dans cette émission, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui manifestent, on a le droit de pas être d'accord avec une action, mais pour autant, vouloir les stigmatiser, c'est autre chose. Et puis, encore une fois, moi, quand je vois des gens qui sont masqués, je ne sais pas d'où ils sont. Et sur les gilets jaunes, quand vous avez tous un truc jaune, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, on a voulu séparer ça. Alors, je vous propose de jouer chez vous à un petit jeu. Vous faites ça autour de la table ce soir ou à l'apéro samedi. Et puis, vous commencez par, en marge du petit déjeuner, une tasse à café est tombée. En marge du repas de midi, le micro-ondes est tombé en panne. En marge de la circulation, une voiture a eu un accident. En marge du mouvement de foule rue de la République, un piéton s'est cassé la tronche. Et vous pouvez y aller comme ça, jouer, et puis trouver des super idées, parce que moi j'en ai eu plein toute l'après-midi. En fait, c'est ridicule, c'est une expression qui a avalé les médias sur une analyse quelconque. Ça évite de finalement de se demander qui est à la marge d'eux, qui fait autrement qu'eux, et finalement de... peut-être aussi choper des gens plutôt que d'autres à des moments aussi dans les manifestations. Ça a servi aussi, hein, parfois, on va pas le cacher aussi, certains groupes comme à des endroits à la CGT qui a permis aussi d'exclure des gens plutôt que d'autres. Voilà, mais enfin, moi je trouve que là-dessus, c'est très intéressant de voir ce En Marge d'œuvre. Donc je propose que ce soit comme du coup, qu'on l'enlève et qu'on s'en débarrasse. Eh ben, ni Dieu ni maître au Vatican. Oui. Alors, ni Dieu ni maître au Vatican, faut que tu m'expliques.
Alors on va aller voir, c'est une rubrique sur la religion du coup, et j'ai mis du coup, vous êtes au courant quand même que du 21 au 24 février, donc le week-end dernier cette semaine, s'est tenu au Vatican le fameux sommet sur, je cite, la protection des mineurs dans l'Église. Oui, parce qu'ils ne sont pas protégés jusqu'à maintenant, les mineurs dans l'Église.
Tu veux dire qu'en marge
des viols,
ils se réunissent, c'est ça. On va vous le dire toute l'émission, en marge.
Cette conférence visait donc à lutter contre la pédophilie. Et même si elle s'est tenue à huis clos, on a eu pas mal d'infos. Et d'ailleurs, les nombreuses victimes pas mal de victimes ont plutôt considéré ce rassemblement, cette réunion, ce sommet, comme un échec. Vu qu'au final, vous avez tous entendu que un prêtre pédophile, il n'y est pour rien, c'est Satan qui l'a manipulé et c'est Satan qui agit. Satan, c'est pratique, c'est comme Dieu, ça n'existe pas, mais c'est facile à utiliser et c'est la bonne excuse. Donc, en marge de la manifestation, Satan vous a peut-être poussé à casser une banque. Voilà, on en est là aujourd'hui, dans les excuses à deux balles qui ne servent à rien. Et lors de ce sommet, très exactement le deuxième jour, vendredi 22 février, Linda Ghisoni est venue parler. Alors, elle est sous-secrétaire des laïcs alors je vais citer le nom officiel, Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie du Vatican. Donc c'est la première femme à s'exprimer, il aura fallu attendre plus d'un jour pour qu'une femme s'exprime. Elle a expliqué le rôle des laïcs, notamment que c'est quand même les laïcs qui ont balancé le plus les prêtres pédophiles, les affaires de viol et tout ce qu'il y a autour de ça. Bon, voilà, elle expliquait des choses, tout ça. Et ensuite, le pape François est intervenu juste après la participation de cette dame. Et on a son allocution non officielle, mais qui est rapportée par l'agence de presse Vatican News. Donc c'est quasi un truc officiel. Donc il a dit, le pape, je cite, et vous allez voir, ça rigole pas, ça nous fait penser que bientôt c'est le 8 mars, vous allez voir. Inviter une femme à parler, ce n'est pas entrer dans la mode d'un féminisme ecclésiastique, parce qu'à la fin, chaque féminisme finit par un machisme avec une jupe. C'est pas toujours très clair ce qu'il dit le pape. Mais enfin, grosso modo, le féminisme, il n'en veut pas. Et une féministe, c'est quelqu'un qui fait du machisme, mais au féminin, c'est-à-dire quelqu'un qui est autoritaire. C'est pas du tout quelqu'un qui réclame l'égalité. Donc il a cette version rétrograde et machiste du féminisme. Mais on en entendait pas moins croyant, un mec qui croit que la Terre a été créée par un personnage dont on n'a jamais vu l'existence. Donc, il reste assez classique dans la vision de la femme par l'Église catholique. Finalement, pas de surprise. Dans la suite de cette parole dite non officielle, il poursuit sur le rôle des femmes dans l'Église, et je vais continuer de le citer parce que c'est pas mal. Il ne s'agit pas de donner plus de fonctions aux femmes dans l'Église. Ça, on l'avait compris. Après, il se reprend. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ainsi que le problème est résolu. Il s'agit d'intégrer la femme comme image de l'Église dans notre pensée et aussi de penser l'Église avec les catégories de femmes. Alors c'est incompréhensible ce qu'il dit. En tout cas, il veut que les femmes soient rangées dans des catégories. Alors on les connaît, c'est essentiellement épouse et mère. Hein, parce qu'il y a assez, il y a peu d'autres rôles de femmes dans l'Église. Donc voilà, épouse et mère. Bon bref, on a pu constater, et on n'est pas les seuls, il y a un journal anglais qui a compté le nombre de femmes invitées à cette conférence. Elles n'étaient pas beaucoup, elles étaient moins de 10 sur 190 personnes invitées. Donc ça fait pas beaucoup. Bon bref, l'Église catholique, à l'instar des religions monothéistes dominantes, reste machiste et anti-égalitaire. C'est pour vous préparer à la journée de la femme vendredi prochain.
Alors, on va partir en Algérie, puisque vous savez que la momie de Bouteflika va se présenter pour un cinquième mandat, sauf se présente pour un cinquième mandat. Il y a donc des manifestations, des mouvements en Algérie, il y a des étudiants qui sont descendus dans la rue. Et le 22 février, il y a eu une grosse manifestation. Ça bouge et ça réagit. Les gens en ont marre de la momie, ils aimeraient bien trouver un petit peu d'autres gens. Une autre démocratie.
Voilà, je rigole. Tout à fait encore une démocratie.
Vous voyez, j'avais mis des guillemets dans ma voix. J'espère que vous les avez entendus. En tout cas, on a des Algériens, des Algériennes qui espèrent autre chose. Et aujourd'hui, on a une centaine de journalistes en Algérie qui se sont réunis ce matin, place de l'Algérie, liberté de la presse à Alger. C'est comme ça, en tout cas, que les choses sont présentées. Alors, d'abord, c'est parti parce qu'il y a un besoin d'expression en Algérie. Et puis, il y a Myriam Abdou qui a fait parler d'elle. Elle est rédactrice en chef. Elle était, on met ça au passé. Rédactrice en chef de la chaîne 3 en Algérie. On va le présenter aussi comme ça. Et elle a démissionné dimanche. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle estime, comme d'autres en Algérie, que la manifestation du 22 février a été complètement mise de côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les médias ont eu ordre de se taire sur la question et de ne pas parler des gens qui sont descendus dans la rue, de ne pas parler des mouvements des étudiants. Et alors, Myriam Abdou, donc elle démissionne, hein, elle n'est plus rédactrice en chef, et elle a pourtant une émission qui s'appelle Histoire en marche, et là, paf, bah son émission
est supprimée.
Est supprimée.
Ah bah oui.
C'est la sanction, c'est radical, c'est tout de suite. Alors, Myriam Abdou, elle est devenue un peu, comment dirais-je, une je vais pas le mot star va pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle est devenue une porte-parole des autres journalistes hommes et femmes en Algérie. Et donc, il y a eu ce rassemblement ce matin, mais il faut savoir que mardi, déjà, la radio publique, il y avait eu un sitting devant le siège de la radio pour dénoncer justement ce scandale. Parce que personne ne veut parler dans les médias, des chefs, bien évidemment, de ces manifestations et de ce mouvement, parce qu'il faut faire élire Bouteflika. Il faut que la momie, elle soit là encore demain, hein, et puis qu'elle puisse perdurer, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir un sixième, voire un septième mandat. Ah bah, une fois que t'es momifié, je veux dire. Tout est ouvert. Donc, il y a un communiqué qui est paru, qui rassemble des journalistes en Algérie et qui dit « Nous refusons le traitement exceptionnel dérogatoire imposé par la hiérarchie au profit du président et de l'alliance présidentielle. » Parce que c'est bien ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est-à-dire qu'on tente de les faire taire. Et alors, il s'est passé ce qui se passe de partout quand les gens descendent dans la rue, ils se sont fait taper dessus. Ah oui, parce que non seulement on les fait taire à l'antenne et dans la presse, mais en plus on les fait taire aussi dans la rue. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Il se passe plein de choses en Algérie pour l'instant. J'ai un peu eu du mal encore à faire le tri, on a peu d'informations. Il y a des journaux qui tentent quand même de titrer des tas de choses et d'exister dans le monde arabe pour parler de ce qui se passe en Algérie. Je pense que ça va durer, donc on en reparlera certainement un peu plus la semaine prochaine quand j'aurai eu un peu plus d'informations sur ce qui se passe plus tard, mais j'avais envie de vous parler d'un autre sujet sur l'Algérie, c'est en marge de tout ça. Il y a une campagne qui dure déjà depuis quelques semaines, ça date du début du mois de février, et c'est un hashtag qui est apparu sur les réseaux sociaux et qui s'appelle « Prisonnière du hijab en Algérie ». Alors en France, on a eu cette polémique toute pourrie pour savoir si jamais Decathlon avait le droit de vendre ou pas un hijab pour les femmes musulmanes qui avaient envie de faire du sport. On est tombé dans le ridicule, là quand même, profond, qui est le mélange de racisme, de bêtises, de masculinisme, en fait tout ce que vous voulez un petit peu sur cette question-là. Je vous rappelle que nous, dans cette émission, on est pour l'émancipation des hommes et des femmes et on pense que s'émanciper des religions, ça nous fait progresser. Pour autant, c'est pas parce qu'on pense ça qu'on veut interdire les gens de croire, c'est-à-dire que les gens... Ils peuvent bien croire s'ils veulent. Ce que nous, on veut, c'est le débat.
Ouais, ce serait bien qu'ils croient pas, qu'ils constatent l'existence des choses.
Mais tu dois le constater par toi-même. Ça, c'est voilà. Pas une obligation et une interdiction. Voilà. Donc, effectivement, il y a des femmes qui, dans la pratique de leur religion aujourd'hui en France, chez les catholiques comme chez les musulmanes, ont une vision rigoriste, fondamentaliste, voire intégriste de leur pratique religieuse et qui, évidemment, ont des signes religieux comme le hijab. Bon, mais alors aller de là qu'il fallait interdire ce truc-là avec Decathlon, c'est quand même absolument hallucinant, parce que si on veut attaquer Decathlon, je pense qu'il y a bien des moyens. Ouais. Parce que je pense que la plupart des gens qui ont réagi sur ce hijab n'ont absolument pas réagi sur la provenance des vêtements de Decathlon, où c'est fait dans le monde, comment c'est fabriqué, enfin tout ça, tout ça. Tout ça pour vous dire que donc, il y a par contre en Algérie un mouvement qu'on peut soutenir, qui est lancé par des femmes qui souhaitent se libérer du voile. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, vous n'avez aucune obligation de le porter. Mais ces femmes ont lancé ce hashtag parce qu'elles souhaitent se libérer de la pression sociale et familiale qui est très très forte en Algérie et qui impose aujourd'hui à des filles, des jeunes femmes et des femmes de porter un voile qu'elles n'ont pas envie de porter, mais elles n'ont pas le choix. Parce qu'il y a une pression religieuse et masculine qui est très importante, parfois une pression aussi des mamans, hein, qui ont par tradition l'habitude de porter le hijab, le voile. Donc c'est intéressant parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors tout ça c'est parti d'une réponse au Hijab Day, qui était un hashtag lancé pour dire il y a la journée du voile, nous on va prôner aussi la liberté de ne pas le porter. Rappelons que c'est ça l'idée. Et puis c'est aussi de dire qu'en Algérie, la religion prend une place très très importante et que l'idée est de aussi de pointer du doigt la montée toujours des intégrismes de partout dans le monde sur toutes les religions. Ça, il faut jamais le cacher que en France, ça arrange bien les racistes de pointer du doigt l'islam, mais il faudrait pas oublier que derrière, chez les chrétiens, il se passe aussi un intégrisme très important. Donc voilà, vous pouvez aller un petit peu sur les réseaux sociaux, aller voir un petit peu ce qui se passe si jamais vous avez des comptes sur genre de trucs. Il y a des choses qui sont tout à fait publiques, il n'y a pas besoin d'avoir des comptes, mais ça permet aussi de se rendre compte que dans le monde, il y a aussi des femmes à soutenir. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des hommes qui se sont mis les voiles sur la tête pour soutenir ces femmes qui sont prises en photo, mises sur les réseaux sociaux, et pour dire, voilà, on est aussi, nous, pour la liberté des femmes, à faire ce qu'elles veulent, à s'habiller comme elles veulent et à ne pas porter le voile si elles en ont envie. Donc c'est aussi intéressant pour montrer que c'est pas juste un mouvement féministe et pour la liberté des femmes, mais c'est aussi un accompagnement plus large de la religion en Algérie. Voilà.
C'est encore à toi.
C'est encore à moi. Ah ouais, je voulais juste vous dire, donc ça va être très rapide, c'est raté, Hanoï, le Vietnam, tout ça.
Ouais, il est parti la queue entre les jambes tout doucement, discrètement par derrière.
Alors on va laisser la petite queue de Donald Jawale.
Entre ses jambes.
Entre ses jambes, donc voilà. Alors donc on vous avait raconté que Monsieur Kim et Trump devaient se rencontrer donc là. Ça c'est fait, mais pas bien fait. C'est-à-dire que Donald il est rentré plus vite à la maison, conférence de presse annulée, des réunions annulées, tout s'est fait beaucoup plus vite, ça s'est pas bien passé. Ils sont pas tombés d'accord du tout. Alors bon.
Mais justement, c'est très discret, parce que d'habitude, c'est un vrai concours de testostérone, ce genre de rencontre. Et là, voilà, ça a foiré, et du coup, ils partent tous les deux discrètement, en mettant leur ego de côté, moi, j'ai l'impression.
Alors, je ne sais pas si tu as vu des photos. Non. Moi, je vous propose d'aller regarder celle de Saul Lobb sur lemonde.fr. Il y a des très, très belles photos. Il y en a envoyé une, enfin, franchement, Donald Trump... Sur toutes ces photos, soit Saul il l'a fait exprès, soit vraiment il a tiré la tronche tout le long de Donald, parce que c'est assez terrible. Ils en ont choisi une ou deux, où franchement Donald Trump à côté de Kim Jong-un, vraiment une tronche, mais absolument terrible. Donc il avait espéré lui avoir son prix Nobel de la paix. Vous la racontez aussi. Bon, je pense que c'est un peu raté. Il semblerait que Kim Jong-un n'ait pas du tout voulu lâcher ce qui était prévu, c'est-à-dire les arrêts des essais avec les missiles et tout ça.
Ouais, parce que les essais nucléaires sont arrêtés pour différentes raisons techniques, notamment.
A priori, hein, on n'a pas tout à fait. Nous, je vous le dis, on n'a pas des sources en Corée du Nord. Hein. On ne fait que lire ce qui est rapporté dans la presse et par les experts. C'est pas bien de rapporter ce que lisent les experts, mais en tout cas, voyons, on se base sur ça. Je rigole, mais évidemment. On pensait qu'après Singapour, il risquait peut-être de pas aller bien loin, le Donald Trump. Il est quand même dans l'embrouille, hein, son mur, ça marche pas bien. Il va à l'international, la diplomatie, ça marche pas. Donc son prix Nobel, je vous dirais, il n'est pas prêt de l'avoir. Même soutenu par un facho comme Monsieur Abe. Déclinariser tout ça, ça marche pas. Vouloir faire la paix, a priori, ça marche pas. En fait, ce que Monsieur Kim souhaitait, c'est qu'il y a la levée des sanctions totales. Et les États-Unis ont dit non. Donc ça fait que tout le monde est rentré à la maison et que les discussions se sont arrêtées là. C'est assez simple, hein, en fait, c'est que la Corée du Nord, on vous l'avait raconté il y a quelques temps, est un peu étranglée pour des raisons financières, puisque plus il y a des sanctions et sur le pays et sur des membres aussi influents, hein, et en haut de bien gradés dans la Corée du Nord, plus ces gens-là ont des sanctions, ne peuvent pas faire du commerce, ne peuvent pas faire circuler leur argent et donc récupérer aussi des devises internationales, et plus ça gêne le développement économique de la Corée du Nord. Ça, les États-Unis ont dit qu'elles ne pouvaient pas renoncer à ces sanctions. Donc, tout s'est arrêté là. Alors bon, il y a quand même un peu des voix qui s'élevaient pour dire, de toute façon, on n'y croyait pas trop. Hein, on semblait bien que du côté de la Corée du Nord, on n'allait pas arrêter de se présenter comme un pays avec des gros missiles prêts à les envoyer sur la Corée du Sud, le Japon, voire les États-Unis d'Amérique. Donc, il y avait même eu un moment quand même, hein, dans l'idée de faire un traité de paix, un vrai machin avec la Corée du Sud, et pas juste arrêter des hostilités. Ça, c'est pareil, hein, c'est mis évidemment de côté. Alors moi, j'ai trouvé une petite phrase sur Le Monde, dans un article du Monde, qui dit « Cette série d'échecs témoigne que le talent revendiqué pour les affaires immobilières est de peu d'utilité, manifestement, pour celle de l'État. » Là, donc, c'est une pique à l'attention de M. Trump, comme quoi, effectivement, il ne faut pas juste être champion des tours qu'il n'arrive pas à vendre et qui, des fois, sont restés dans un état déplorable. Ça, c'était entre entre parenthèses, pour évidemment être un bon chef d'État et d'être un bon diplomate. On se souvient quand même qu'il avait beaucoup insulté Monsieur Kim, donc c'est pas si simple. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est complètement raté et qu'on ne sait pas quand les prochains rendez-vous pourraient avoir lieu. Pour la Corée du Sud, il faut se le dire, c'est une très très mauvaise nouvelle que tout ça n'ait pas fonctionné, parce que la Corée du Sud pensait que avec un avancé de paix entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord, il pourrait y avoir des pourparlers supplémentaires. Bah là, c'est un peu un échec aussi.
Allez, on va parler un petit peu, on va faire une petite rubrique qui va s'appeler révisionniste et escroc en tout genre. On va commencer avec le salon de l'agriculture dont nous n'avons pas eu le droit de faire une visite, enfin pas le droit, si on aurait sûrement eu le droit, mais il faut aller à Paris.
Je pense qu'alors là, il t'accueille avec grand plaisir.
C'est un peu loin et un peu cher. Donc nous n'avons que des infos reprises sur différents sites, mais nous avons découvert un truc super bien, enfin en tout cas moi, sur le site, enfin le site, le stand de Interbev. Ah, Interbev, c'est le syndicat officiel interprofessionnel de la viande. En gros, c'est un lobby pro-viande. Voilà. Et alors, il y a plein d'affiches. Alors, ils ont repeint le stand en vert. Oui, parce qu'avant, c'était rouge. Parce
que la je faisais des gros yeux, excusez-nous. C'est pour ça qu'il me se reprend.
Et on voit apparaître des tracts, des affiches avec écrit Planète Flexi, Flexi Studio, être flexitarien, c'est ne se passer de rien, etc. On se dit, waouh, qu'est-ce qui leur arrive?
C'est un nouveau mot, ça aussi? Non, ça existe depuis quelques temps, quand même, un peu.
Donc, ils mettent en avant le mot flexitarien. Alors, je vous rappelle, les flexitariens sont les personnes qui diminuent leur consommation de viande pour des raisons d'impact environnemental et qui décident de manger de la viande une, deux ou trois fois par semaine, pas plus, sinon après on n'est plus flexitarien, sinon après on est viande.
Mais déjà trois fois par semaine, c'est quand même pas mal, non?
Déjà trois fois par semaine, pardon, c'est pas mal. L'idéal étant deux, en fait, il faut le dire. Bon, bref, ces gens qu'on appelle les flexitariens ont l'air d'avoir inspiré ce syndicat, ce lobby de la viande. Sauf que, en fait, quand on regarde de près, ils reprennent une partie des arguments des flexitariens, c'est-à-dire que on va manger de la bonne viande, de la viande locale qui respecte l'environnement. Alors la viande, elle respecte l'environnement, mais dont les animaux ont été élevés en respectant l'environnement, etc. Et c'est tout, ils reprennent que ça, ils reprennent pas du tout, il faut baisser sa consommation de viande, ils sont pas cons, hein. Ils vendent de la viande et c'est un syndicat pro-viande. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait ce qu'on appelle du greenwashing, ils ont repeint donc en vert leur stand, ils ont repeint en vert leur propagande, ils s'approprient le mot flexitarisme en n'en gardant qu'une petite partie, celle qui les intéresse, et la propagande est repartie de plus belle pour bouffer de la viande. Voilà, on en est là aujourd'hui. Alors c'est juste un petit exemple de greenwashing, j'ai trouvé ça très drôle, cette propagande de la part du syndicat de l'interprofession de la viande.
Alors il faut savoir qu'en marge de ce stand, il y a beaucoup cette propagande qui est apparue sur les Twitter, c'est-à-dire des comptes qui ont été créés que pour ce moment du salon de l'agriculture, où on a des tas de gens qui sont de telle ou telle région et qui nous vantent leur bonne viande, comme elle est bonne, la bonne viande. Donc là, on est dans une espèce de réaction finalement aux antispécistes ou aux véganes qui ont fait des actions ces derniers mois, et aussi à la médiatisation finalement du trop plein de viande ou de la mauvaise viande, en tout cas pour certains articles. Et je pense que c'est vraiment une réaction. Ils ont dû y mettre la thune quand même.
Ouais. En fait, le mouvement végane se développant, ils ont peur. Donc c'est leur réaction à eux. Et d'ailleurs on a la même chose sur les fruits et les légumes. Il y a quelques années, alors le bio s'est beaucoup développé, alors beaucoup entre guillemets, ça reste très faible en proportion, mais ça s'est quand même beaucoup développé. Et les agriculteurs productivistes et pollueurs ont eu peur et ils ont monté il y a quelques années l'agriculture raisonnée pour nous faire croire qu'en en mettant moins c'était mieux. Et bien, c'était moins cher que le bio, tout ça. Donc ça a foiré totalement et ils sont de retour avec encore du greenwashing, un nouveau système qui s'appelle, ça s'appelle sans résidus de pesticides. Grosso modo, ils essayent de trouver ce qu'ils appellent, eux, une troisième voie entre la tomate qui pousse sous serre, dans une serre chauffée, ultra traitée, et la tomate qui pousse en plein champ, bio, au soleil, etc. Eux, ils proposent un truc au milieu. C'est un truc un peu centriste. C'est l'agriculture centriste, quelque part. Sauf que c'est de l'arnaque, bien évidemment. Donc ça s'appelle le zéro résidu de pesticides et c'est soi-disant garanti. Ainsi, ça existe déjà, ça fait plus d'un an que ça existe, un petit label rond de couleur verte, si vous n'en avez jamais vu, nous non plus, parce qu'on ne va pas acheter ce genre d'escroquerie, bien évidemment. Et ce petit logo vert rond porte l'inscription « Zéro résidu de pesticides ». Alors, c'est 52 producteurs qui se sont regroupés il y a un peu plus d'un an pour essayer de lancer ce truc qui prend le relais de l'agriculture raisonnée qui n'a jamais convaincu personne. Donc, la promesse, c'est « Il n'y aura plus de danger pour le consommateur puisque nous allons tester ». Les produits que nous vendons. Alors en fait, ils ont un laboratoire qui s'appelle COFRAC qui va contrôler et un deuxième organisme de contrôle extérieur qui s'appelle KIWA qui vérifie qu'il n'y ait pas de résidus. Alors comment ils vont faire dans les faits, à part ces contrôles? Parce que dans les faits, quand on cultive avec de l'agriculture de merde, on a des résidus qui restent. C'est difficile de s'en débarrasser totalement. En fait, ce qu'ils disent, c'est que en fait, on essaye de cultiver avec moins, voire pas de produits chimiques, si tout se passe bien. Alors, ils expliquent, ça fait un an qu'on fait ça, on a déjà divisé par deux l'utilisation de produits phytosanitaires. On se dit super, on est champion du monde en France de l'utilisation de ces produits toxiques et cancérigènes. Ils sont arrivés à diviser par deux, c'est bien, mais diviser par deux, il en reste quand même beaucoup, du coup, hein, puisqu'on est champion du monde. Non, alors en fait, ce qu'ils font, donc ils en mettent moins. Si jamais la culture est attaquée par un parasite, là, ils en mettent. Mais ils le vendent plus dans ce truc-là, ils le revendent en normal. On se dit, alors, en fait, ils font... quand tout va bien, on fait un truc qui est pas trop pourri, et dès qu'il y a un petit truc, hop, on balance des produits chimiques à mort. Ce qui fait qu'on a un produit qui est orienté consommateur, c'est-à-dire ils disent, bah, il n'y aura plus de danger pour le consommateur. Déjà, ils avouent quelque part que les produits qu'ils utilisent, c'est dangereux, ce qui est pas mal. Sauf qu'en fait, on rappelle que le principal intérêt des légumes bio, c'est pas à la consommation, mais c'est à la production. Puisque, on rappelle aussi que les premiers pollueurs des rivières, c'est plus l'industrie depuis longtemps, c'est l'agriculture. Or, avec leur système, même s'ils diminuent la quantité de traitements phytosanitaires, il en reste quand même pas mal. Donc en fait, c'est une sorte d'agriculture faussement biologique et égoïste. C'est-à-dire qu'on ne pense plus à la planète, plus aux champs, plus aux gens qui habitent autour et qui vont respirer les produits, tout ça. Non, on pense juste à notre pomme, enfin à nous-mêmes, et on achète des produits où il y aurait moins de risques. Voilà, c'est une belle arnaque. Tout ça pour éviter de passer à une vraie production biologique, alors que c'est faisable, ça demande juste un peu plus d'efforts. Ils n'ont pas l'air de vouloir les faire, ces producteurs de fruits et légumes. Donc voilà, c'est la suite de l'arnaque précédente qui s'appelait l'agriculture raisonnée. On souhaite que ça ne marche pas. Et pour continuer dans ces escrocs, on va revenir aux États-Unis d'Amérique. C'est une note de la Maison-Blanche qui a fuité. C'est un mémo, en fait, qui a été relayé par un site d'information aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle INR News, qui révèle un projet de monter une revue scientifique à comité de lecture, donc celles qui sont les normalement sérieuses, dites contradictoires sur le changement climatique, avec normalement plein de scientifiques climato-sceptiques, bien évidemment. Alors on ne sait pas comment ils vont faire un truc à comité de lecture sérieux, parce que si on est tous contre un truc, ça paraît incompréhensible. Surtout que les preuves scientifiques sont réelles. Alors je ne sais pas comment ils vont faire. En tout cas, les bruits courent et a priori, Trump pourrait signer la création de cette revue d'ici un mois. Il a déjà prévu qui sera le directeur, puisque ce serait William Harper, qui est un scientifique sérieux, mais un scientifique qui est spécialisé dans la physique et qui n'y connaît rien en climat. Ah bah oui, c'est le principe, si on est climato-sceptique, c'est qu'on n'est pas spécialiste du climat, sinon on n'est pas climato-sceptique, vu les constatations qu'on a tous les jours quand on fait de la science dans ce domaine-là. Donc il prend ce gars-là. Alors ce gars-là, il est très très fort. En 2014, il avait comparé la diabolisation du dioxyde de carbone, puisqu'il estime que plus il y a de dioxyde de carbone, mieux c'est lui. Il est complètement barge. Hein. Il avait comparé cette diabolisation à celle des juifs par Hitler. C'est quand même incroyable. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, les écolos qui se battent contre le dioxyde de carbone n'ont tué personne, hein, contrairement à Hitler. Enfin bon, bref, c'est un gars qui est très provoque, très proche des familles, de grandes familles qui ont permis le financement des campagnes présidentielles, la campagne présidentielle de Donald Trump. Et c'est un climato-sceptique notoire, lui et ses amis. Alors officiellement, ils auraient invité des vrais scientifiques, c'est-à-dire des gens de la NASA, de la National Science Foundation. En tout cas, ils les ont invités. On ne sait pas s'ils sont venus à la première réunion qui a eu lieu le 22 février, mais ils ont été invités. Bon, bref, grosso modo, Donald Trump et ses amis essayent, avec un vernis scientifique, de valider leur théorie contre les dérèglements climatiques en manipulant la science. Alors, on a toutes les chances que ça ne soit pas crédible, sauf que on connaît leur pouvoir de nuisance, notamment parce qu'ils sont proches de certains médias assez qui influencent beaucoup les gens aux États-Unis. Du coup, il y a quand même un vrai risque de manipulation avec des arguments pseudo-scientifiques. Alors, on continue dans les escrocs comme ça avec les antivax.
J'ai été interpellée par quelqu'un qui m'a dit: est-ce que tu as vu ce tweet d'un utilisateur donc sur Twitter? Hein, ça va avec. Et j'ai dit: bah non, qu'est-ce donc? Fais-moi voir tout ça. Et je m'aperçois qu'un utilisateur a pris un stand en photo au Salon Prime Vert avec des chouettes livres.
Non mais le Salon Prime Vert, pour les escroqueries pseudo-scientifiques, s'en est rempli.
Alors, il faut se souvenir qu'avant le Salon Prime Vert, excusez-moi, il y avait des trucs politiques, il y avait du bio, au tout début.
Il y a toujours ça.
Oui, il y a toujours, mais il y a toujours des gens très bien d'ailleurs.
Mais il y a toujours eu ces gens à la marge, New Age, tout ça.
Et il y a toujours eu ce côté-là. Alors, c'est-à-dire qu'en même temps, vous pouvez avoir par exemple des producteurs qui font des trucs en laine bouillie, je précise, des confitures.
Non mais il y a des gens qui disent par exemple qu'on peut se soigner avec les cristaux.
Je sais pas s'il y a le stand c'est... cette année encore, mais il y a beaucoup de stands sur la viande, je vous le dis. Pour les flexitariens. Voilà, donc il y a de la bouffe, il y a des cosmétiques, il y a de la laine bouillie, il y a des stands, élever les verres, là, les machins, il y a de la politique, il y a les librairies, il y a des trucs très bien. Hein. Je crois qu'il y a la griffe, non ?
Enfin, oui,
il
me semble qu'il
y a,
tout à fait.
Il y a des gens très très bien. Et puis à côté de tout ça, on trouve effectivement des gens beaucoup moins bien et beaucoup moins fréquentables, voire carrément dangereux. Et moi, je suis un petit peu inquiète. Alors, on va déjà. Peut-être juste préciser qu'il y a une famille française qui est accusée d'avoir introduit la rougeole au Costa Rica.
Ah ouais, alors du coup,
c'est vrai ou pas ? C'est compliqué, mais en tout cas, ils sont accusés.
C'est la panique au Costa Rica. Hein.
Alors, voilà, puisque depuis 2014, il n'y avait pas eu de cas de rougeole. Et il faut savoir qu'en 2014, c'est déjà des étrangers qui avaient fait réapparaître la rougeole. Donc, voilà, c'est-à-dire une famille pas vaccinée. Bon. Ils sont tombés malades, évidemment, hein, ça va avec l'information. Donc tout ça est très intéressant de tomber donc sur ces antivax, comme on les appelle maintenant. Et donc moi je me suis intéressée à un stand, c'est le stand de numéro 302 de l'association Liberté Information Santé, qui est présenté sur le site de Prime Vert comme une cette association demande le respect des droits de l'homme, bon, je rappelle qu'il y a les droits humains sinon, dans le domaine de la santé. Elle dénonce les vaccinations obligatoires imposées aux individus et réclame, en intervenant auprès des parlementaires, la liberté vaccinale ou pour le moins une clause de conscience. L'association diffuse par le courrier d'Alice une information référencée issue de la littérature médicale internationale.
On rappelle que ces gens-là, avec le développement, le retour de certaines maladies, tuent des gens, parce que les gens qui, notamment les gens qui peuvent pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se vacciner, ils sont immunodépressifs, ils ont des maladies qui les empêchent de se vacciner, et donc ils sont sensibles. Si l'ensemble de la population quasiment est vaccinée, les maladies circulent plus. Or, à cause de ces antivax, ces gens-là qui ne sont pas protégés par la médecine vont choper la maladie, voire mourir. Donc ce sont des gens qui vont tuer d'autres personnes. C'est très très dangereux de faire ça.
Alors, moi je me suis intéressée finalement à ces fameux livres, entre autres. Il y en a un qui s'appelle Pour en finir avec Pasteur. Il y en a un autre qui s'appelle Vivre sans vaccin. Et celui-là, je vous le recommande puisque ça nous explique témoignages de familles d'enfants non vaccinés. Ce livre est un recueil de bonnes nouvelles. Il existe des centaines, des milliers de familles tout autour du monde qui réfléchissent sur le bien fondé de vacciner et décident que non, qu'ils vont choisir d'autres moyens pour préserver la santé de leurs enfants et permettre à leur système de défense immunitaire de se construire de façon naturelle.
Voilà. Si vous trouvez un autre moyen de vous protéger du tétanos, par exemple, prendre une maladie au hasard, vous pouvez avoir, je pense, le prix Nobel.
Il y a la bonne santé des enfants non vaccinés. Ah oui, parce qu'en général, ça touche beaucoup les enfants. C'est-à-dire que c'est par la famille, les mamans, beaucoup, qui se passe tout ça. Ce livre est le premier à mettre l'accent sur les bienfaits de l'abstention vaccinale. Super. Diagnostic néfaste, vous pouvez trouver la vérité sur l'autisme post-vaccinal. Soignez votre enfant par l'homéopathie. Bah oui, il fallait quand même qu'il y en ait un sur ça. Vaccination, la grande illusion, à la fois humoristique et pédagogique. Ce livre est destiné à nous faire prendre conscience des manipulations et de la désinformation qui règnent dans les domaines vaccinal. Je vous ai parlé de la suite. Vaccination, le marché de l'angoisse. La bioélectronique de Vincent, je vous passe aussi le truc. Vaccination, le droit de choisir. Bon, on va s'arrêter là. Toujours est-il que ce groupe a mis en avant Marc Vercouter, qui a fait beaucoup de vidéos anti-vaccins, qui a parlé quand même de crime vaccinal. Ouais. Il est présenté comme le docteur Marc Vercouter. Alors effectivement, il a passé un diplôme de médecine, sauf qu'il n'avait pas le droit de pratiquer la médecine. Et vous voyez la subtilité ? Eh bien, elle est présente. Donc, ils lui rendent hommage parce qu'il est mort en décembre 2018, donc sur ce site de l'ALIS, Association Liberté Information Santé, on trouve donc ces vidéos et un hommage à ce monsieur qui avait une formation d'homéopathe, il faut le dire quand même, et qui disait qui faisait partie de l'opération Le Cri pour la vie, non à la vaccination. Le site comme Le Cri pour la vie, c'était un appel très urgent pour la prévention d'un crime de génocide. Bon, très intéressant tout ça. Donc voilà, moi je suis quand même un peu outrée, scandalisée, carrément énervée de voir que on peut trouver sur un salon Prime Vert ce genre d'associations qui sont quand même des associations extrêmement dangereuses, porteurs quand même de mensonges. Parce que c'est ça.
Il y a toujours eu ça dans les salons écolo et notamment dans Prime Vert, on a toujours eu ces énergumènes anti-scientifiques.
Ouais, sauf qu'il y a une différence entre Loris qui te vend des articles de magnétothérapie, dont de l'eau magnétisée. Je t'ai expliqué tout à l'heure.
J'ai cherché comment on pouvait magnétiser l'eau.
Ouais, comme c'est toi le scientifique, moi j'y connais rien. Ouais. Enfin, je suis allée sur leur site de Loris.
C'est pas pratique l'eau en fait pour magnétiser quoi.
Ils te vendent aussi des trucs pour sinon les douleurs. Hein, tu te colles tout ça autour du cou. Puis t'as plus de douleurs cervicales après, il paraît que c'est vachement bien. Mais si tu veux, il y a une différence entre ça, la magnétothérapie, et puis le fait de dire aux gens qu'il y a un crime à se vacciner.
Ouais,
que les criminels, ce sont ceux et celles qui se vaccinent, que les criminels, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est les ministres de la Santé, c'est les gouvernements. On peut critiquer les mises en place pour la vaccination, on peut critiquer plein de choses, mais aller dire que la vaccination, c'est criminel,
parce que ça a quand même sauvé des millions de personnes depuis que ça existe. Hein. C'est énorme la vaccination. Mais bon, il faudrait qu'ils aient un peu de culture scientifique, tu sais, ces gens-là. Ce qui n'est pas leur cas.
Ouais, puis arrêter de croire dans des conneries aussi. Pardon, c'est un peu direct.
Il ne faut pas croire. Il faut constater que ça marche ou que ça marche.
Enfin voilà, donc vous pouvez vous renseigner sur leur site. Hein, puis ça vous fera du petit débat en famille, parce que je suis sûre que dans toutes les familles, on trouve des gens qui doutent quand même de l'intérêt de la vaccination et qui pensent que leurs enfants seraient en meilleure santé sans la vaccination.
Eh ben, voilà. Bon courage. Je poursuis avec un peu de désinformation encore et toujours, et autour de la pollution lyonnaise, puisqu'en ce moment on est en plein dedans, on n'est pas les seuls, mais hier, révolution, la préfecture du Rhône a décidé la mise en place d'une nouvelle série de mesures, notamment la circulation, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, où tout le monde n'a pas le droit de circuler différencié, ça s'appelle la circulation différenciée. Sauf qu'à Lyon, faut surtout pas toucher non plus aux automobiles. Alors en fait, tous les véhicules qui sont munis de la vignette, ils ont le droit de circuler. Ah ouais, en fait la vignette, elle dit à peu près si votre voiture pollue beaucoup, très beaucoup, énormément, ou beaucoup, enfin beaucoup trop, enfin voilà, ça donne un truc comme ça. Donc, si vous avez une voiture qui pollue le maximum, tant que vous avez la vignette, vous avez le droit de circuler. C'est très drôle, quand même, ce qu'a fait la préfecture. On est vraiment dans un truc de dingue. 48 000 morts, la pollution automobile, la pollution atmosphérique, c'est quand même énorme. Un truc de fou. Ils ont décidé de faire une fausse mesure. Alors, c'était pas la première, et sûrement pas la dernière. Donc voilà. Et en plus, c'est limité à Lyon et Villeurbanne. Donc, tout autour, cutchy. Ah, bah, pas mal. Et alors là, comble de l'absurde, on a un communiqué de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui est soi-disant le truc officiel qui nous donne les infos sur la pollution et qui nous dit, je cite, cette pollution elle est due à un fort anticyclone. On se dit putain, mais attendez, l'anticyclone il crée des particules, dis donc. Des petites particules, c'est incroyable. Ces mecs, ils vont, j'espère qu'ils ont postulé pour le prix Nobel, hein, parce que l'anticyclone crée des particules. Alors, bien évidemment, ce sont des imbéciles qui mentent exprès, hein, puisque, ou alors, pas des imbéciles, mais ils mentent, soit ils sont imbéciles, c'est-à-dire qu'ils sont...
Les imbéciles heureux, ça existe.
Voilà, c'est peut-être ça. Mmh. Soit ils mentent exprès. Bon, je prendrais la deuxième solution quand même. D'accord. Parce qu'évidemment, les particules ne sont pas créées du tout par l'anticyclone. Alors, je vais lire le reste du communiqué, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme tu disais tout à l'heure. Je cite. « Depuis le 12 février, un anticyclone s'est installé sur la région. » Entre parenthèses, c'est mal. Non, ils ne l'ont pas mis, ça. « Et nous constatons des inversions thermiques très marquées le matin. » Bon, c'est un phénomène technique. « Malgré des températures douces l'après-midi, le phénomène de convection, qui fait monter l'air et qui normalement fait que les particules qui sont créées en bas au sol se barrent, ne fonctionne pas, en gros. Les taux de particules fines continuent donc de monter progressivement sur l'ensemble de la région, dans une période de l'année où les émissions de chauffage en particulier sont encore importantes. » Ils se foutent de notre gueule. Il fait 18 degrés depuis 15 jours, donc quasiment plus personne chauffe. Et là, on nous parle du chauffage. Et dans leur communiqué, ils ne parlent que du chauffage. C'est quand même énorme, alors qu'on est dans une période où il fait beaucoup plus chaud. On rappelle que les principales sources de particules sont le trafic routier, à travers les moteurs et aussi toutes les particules issues des freins et de l'usure de la voiture. Deuxièmement, les activités industrielles, alors de moins en moins dans les grandes villes comme nous, hein, parce qu'on a un peu le sud lyonnais, mais sinon il n'y a plus rien d'industriel. Et le chauffage au bois, dit non performant, c'est-à-dire celui qui est dans une cheminée à foyer ouvert. Alors, grosso modo, les chiffres, dans les grandes villes, en plein hiver, c'est 54% des particules qui sont créées par l'automobile, 26% par le chauffage individuel et 11% par le bâtiment, en fait, quand ils font des travaux, etc. Or, en ce moment, le chauffage individuel, il représente que dalle. Donc, en fait, c'est les trois quarts, c'est les bagnoles. Mais alors, pourquoi ils ne le disent pas ? Eh bien, parce que, comme les autres, ils sont dans cette religion, cette croyance que la bagnole est un outil dont il ne faut pas dire du mal. Voilà. Et alors, mais c'est pas les seuls à être ridicules là-dessus, je vous parle pas de Klimafeld et les autres, hein, ils sont tous ridicules. Mais le Citral est allé très loin puisqu'ils ont mis en place une mesure révolutionnaire pour inciter les gens à laisser leur bagnole. Ils ont proposé le ticket à 3 euros. Oh, c'est la classe. 3 euros, aller-retour, enfin vous avez toute la journée, hein, vous pouvez faire l'aller-retour. Donc du coup, c'est un peu moins cher que quand vous prenez vos carnets de 10 tickets. Enfin, mais pas suffisamment pour convaincre les gens d'abandonner leur bagnole et de la laisser au parking. Non. Alors, on sait les mesures qu'il faut prendre. Il faut la gratuité des transports en commun. Mais ça, vraisemblablement, les TCL et le Citral n'est pas au courant des choses. En plus, alors, comble du malheur pour le Citral, ils annoncent hier l'arrivée de 55 nouveaux bus diesel. Là, ils ont l'air cons.
Paye ta honte, hein, quand même. C'est paye ta honte, quoi.
Alors ils ont l'excuse, ouais mais c'est pour remplacer d'autres anciens bus, donc machin, tout ça. En fait, je vous rappelle qu'ils ont promis en 2025 un réseau, entre parenthèses, 100% vert local, c'est-à-dire pas de pollution induite localement. On a délocalisé la pollution ailleurs, donc des bus plutôt électriques ou à hydrogène, puisque la combustion, enfin ou au méthane, au gaz, en fait je sais pas à quoi, mais voilà, des choses qui émettent pas de pollution locale. Mais là, ils ont l'air vraiment cons avec leur truc dans leurs 55 nouveaux bus diesel qui arrivent. Voilà. Et ce n'est pas les seuls à avoir l'air bêtes, puisque l'empereur de Lyon, qu'on appelle Gérard Collomb, lui aussi, alors lui s'est félicité de la micro-mesure qu'il a prise, qui est utile certes, mais qui est une micro-mesure, c'est le parking gratuit pour ceux qui ont l'étiquette résident. C'est une belle incitation, effectivement, à ne pas prendre sa voiture. Mais il faut accompagner de plein d'autres mesures pour que ça marche. Et cette seule mesure isolée, comme ça, avec d'autres mesures ridicules, ne suffit pas. On notera quand même que ces dirigeants élus, soi-disant, et soi-disant sérieux, compétents, tout ça, il leur a fallu 3 jours, Gérard Collomb, et 2, David Klimafeld, pour réagir à cet épisode de pollution, qui est quand même le 5e depuis le début de l'année 2019, et on n'est que le 28 février. Donc c'est pour dire qu'ils n'en ont rien à faire de la pollution, malgré les 48 000 morts en France, tout ça, ils sont responsables, mais pas coupables, a priori.
Alors écoute, après moi j'ai appris des super nouvelles au niveau local. Lyon, oh là là, la métropole de Lyon vient d'être officiellement labellisée territoire French Impact.
C'est quoi un French Impact ?
Alors, c'est un machin qui est porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Voilà. Et donc, c'est parce que la métropole de Lyon, elle a un savoir-faire en matière d'innovation sociale et pour le dynamisme de son écosystème. Donc, il paraît qu'il se passe plein de trucs hyper bien. Et donc, on a un label French Impact. Alors, c'est dans la même idée que le French Fab et la French Tech.
Oui, c'est, on anglicise des mots qui ne veulent rien dire et on fait croire que la ville, elle est bien.
C'est ça. Je suis pas sûre d'avoir grand chose de plus à dire que ça, à part que David Kimmelfeld, il est super content.
Voilà.
Donc moi, ça me fait hyper plaisir pour les French.
Il est content de ça. Il est content de sa pollution. Il est content de sa ville telle qu'elle est. Bon bah.
Il tweet.
Voilà.
Il se balade en ce moment. Il est en pleine campagne. Hein, donc il est hyper occupé. Je sais pas si vous avez vu son agenda, mais en tout cas voilà. Donc ça me fait hyper plaisir de savoir que il y a le territoire French Impact. Hein, voilà. Parce que je pense qu'on va en bouffer du French quelque chose. Et puis alors sinon, là aussi, ça m'a fait hyper plaisir. C'est la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé qui regroupe 300 enseignes adhérentes. Donc un truc hyper indépendant, hyper pas braqué ouais. sur un truc en particulier, et ben a désigné la presqu'île de Lyon, la nôtre là, ici là, meilleur centre-ville commerçant.
Putain, mais et à quoi ça sert que les gilets jaunes
c'est ça,
ils
comprennent
le bordel le samedi si on gagne un truc comme ça quoi.
Toi là qui m'écoutes avec ton gilet jaune, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu casses pas ça, c'est pas possible. Ah ouais. Comment notre presqu'île, elle peut être meilleur centre-ville commerçant? Bon, je rigole, hein, si t'es gilet jaune, t'es pas obligé de tout péter. Enfin,
tu fais ce que tu veux.
Tu fais ce que tu veux, mais t'évites de te faire pincer parce qu'en général, il y a de la répression derrière. Moi, c'est surtout ça que je vois, c'est qu'il y a de la répression. Et tu me diras, toi qui es gilet jaune, vous avez de la répression, même quand vous cassez rien. Et on est bien d'accord. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste d'être dans la rue, dans le monde entier, aujourd'hui, pour se faire taper dessus et se faire déglinguer la tronche. Donc, toujours est-il qu'on est hyper content
d'être le meilleur centre-ville du monde.
Ouais, commerçant.
Meilleur centre-ville,
commerçant.
De France.
Bah oui, enfin, il y avait 20 autres métropoles, hein, mais quand même, hein, c'est centre-ville, commerçant. C'est pas hyper dynamique.
Non mais
ils sont fermés tous les samedis.
Non mais en dehors des gilets jaunes et du bordel, c'est vrai que le centre-ville de Lyon est plutôt dynamique par rapport à un centre-ville d'une ville moyenne où tout le monde s'est barré parce que tout le monde va acheter ses produits industriels dans les grands magasins.
Mais il paraît que c'est super attractif pour les enseignes internationales.
Yes man. Oh,
le secteur du luxe et que même les artisans indépendants ils peuvent s'y retrouver. Je sais pas où hein, parce que vu le prix du loyer du foncier, je vais te dire éclate-toi mon ami. Mais enfin voilà, moi ça m'a mis en joie. Mais en joie, voilà, incroyable. Toutes ces belles réussites pour nous, notre ville et notre
si
métropole.
Si vous voulez acheter votre Rolex, il faut aller en centre-ville de Lyon. Voilà, c'est ça. Parce que c'est plutôt des magasins orientés Rolex hein, quand même.
Je sais pas. C'est, personnellement, j'ai même
moi,
pas de montre.
Moi, je traverse hein,
donc,
ce centre-ville.
Mais ce qui est, voilà, non, mais il faut savoir que quand on parle des enseignes internationales, c'est aussi Uniqlo ou tout ça. Enfin bon, voilà, c'est.
H&M,
et il paraît ça, qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont se réinstaller. Il y a la Redoute Intérieure qui s'est réinstallée. Enfin tout ça. Donc, ouais, il paraît que ça attire.
Ouais, bon, bah.
C'est, rappelons que c'est la norme et que c'est de la franchise et qu'il y a dans toutes les capitales du monde, dans toutes les villes de France, on trouve les mêmes magasins, c'est assez terrible quand même.
Ah oui, dans les capitales d'Europe, vous vous baladez, vous avez l'impression d'être dans la même ville quasiment.
Alors
en plus, si vous n'avez pas de chance que JC Decaux.
C'est ça, j'allais dire exactement la même chose, on l'a eu en duo.
Il
là.
Est le vocabulaire, il est le mobilier urbain.
Et c'est mort.
Moi j'avais fait ça en Irlande, j'avais l'impression d'être à Lyon, en Irlande du Nord. C'était le mobilier et moi, JC Decaux et les mêmes magasins que
je me souviens d'une exposition horrible. De quelqu'un qui avait fait à travers l'Europe du Nord. Je pense que je me souviens plus si c'était la Suède, le Danemark. Je crois que c'était la Suède. Des photos dans un certain nombre de villes pour montrer à quel point tout était pareil, identique, et qu'on ne se retrouvait plus d'une ville à une autre. Oh, ça faisait peur.
Voilà. Une uniformisation.
Je me souviens plus du nom. C'était une photographe. Ouais. Voilà.
Et le capitalisme, c'est l'uniformisation.
Mais il y a des gens qui travaillent sur cette question-là et sur l'uniformisation, et heureusement qu'il y a des gens pour travailler là-dessus. Contre, bien évidemment. En tout cas.
Je poursuis et je termine ma petite partie avec une rubrique sur le travail tu. On va parler d'une étude qui est sortie, publiée par Santé publique France, qui est parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, donc un truc sérieux, qui analyse autour des femmes, parce que c'est le sujet est assez peu traité dans le monde du travail, les femmes en âge de procréer, alors c'est entre 15 et 44 ans, l'objectif c'est de voir l'impact après, à long terme, sur ces femmes, et sur peut-être les enfants qu'elles feront, des produits qu'elles vont rencontrer dans le monde du travail. Alors les produits, c'est essentiellement des solvants qui peuvent être oxygénés, pétroliers, chlorés. Alors grosso modo, on se rend compte que plus d'un million de femmes en France, entre 15 et 44 ans, sont exposées sur leur lieu de travail à soit des solvants oxygénés, hein, 15% des travailleuses, soit des solvants pétroliers, soit des solvants chlorés. Vous me direz, c'est grave ou pas ? Ah bah oui, on rappelle que ça peut alors provoquer par exemple des affections cutanées, ça, encore ça va, des atteintes au système nerveux, ça peut être vertige, paralysie, des choses comme ça, des problèmes sur le sang, de l'anémie notamment, et sur le foie, ça peut créer des hépatites, sur les reins, et puis ça peut faire baisser la fertilité, entraîner des malformations, voire des cancers. Donc il y a un intérêt de faire cette étude. Donc c'est une étude qui est en cours, hein. Là on a le premier compte-rendu qui sort dans Santé publique, publié par Santé publique France sur le bulletin épidémiologique hebdomadaire. C'est très intéressant de voir qu'il y a autant de femmes, hein, plus d'un million en France, qui dans leur travail sont confrontées à ces produits dangereux à la santé. Donc c'est un vrai progrès de faire des études. Par contre, on se dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, a priori, j'ai rien entendu parler dans les projets de loi pour protéger les femmes de ces produits-là, ou les êtres humains tout court d'ailleurs, bah, puisque pour le coup, il n'y a pas que les femmes, mais c'était moins étudié sur les femmes jusqu'à maintenant. Bon, on étudie, c'est pas mal, ça serait bien à un moment qu'il y ait une action quelconque pour protéger les travailleurs et les travailleuses. Ah oui, je continue, j'ai une deuxième info sur le monde du travail qui tue.
Et la loi de 2017, il me semble.
Oui, alors c'est la loi qui s'appelait, qui était surnommée Rana Plaza. Vous savez, Rana Plaza, c'était un immense immeuble dans lequel il y avait des ateliers textiles qui travaillaient pour, en sous-traitance de grandes marques occidentales. C'est au Bangladesh qui s'est écroulé, il y a eu 1138 morts. Et suite à ça, il y a eu une loi dont l'objectif était de responsabiliser les entreprises dites donneuses d'ordre. C'est-à-dire que c'est facile pour Carrefour, H&M, tout ça, de sous-traiter et dire bah non, nous on fait cacher le produit, on n'est pas responsable du traitement des salariés dans nos usines. Enfin, c'est pas nos usines justement, on n'est pas responsable. Cette loi, elle les responsabilise. Donc là, il y a un groupe d'associations, les Amis de la Terre, Amnesty International, Sherpa et d'autres, qui ont étudié, donc depuis 2 ans, enfin un peu plus d'un an, cette mise en place. Alors les entreprises sont censées communiquer sur ce qu'elles font. En fait, ils se rendent compte que ça concernerait normalement en France au moins 300 sociétés. Ils ont trouvé seulement 80 plans de vigilance, donc les 220 autres s'en foutent complètement. Et dedans, bah, c'est presque ridicule. Il n'y a presque rien. Grosso modo, ce qui en ressort de ce rapport, vous pouvez le lire, c'est disponible, et ben que certaines entreprises ont publié ces plans, mais juste pour se protéger juridiquement, avec rien dedans, et les 3/4 des autres, elles n'ont rien publié. Grosso modo, cette loi, qui était une bonne idée, elle est peu appliquée, et on n'a pas vu de sanctions arriver. Voilà, c'est triste, tout ça. Et au Bangladesh et ailleurs, les salariés continuent de mourir.
Alors j'étais en train de chercher comment j'allais pouvoir faire joujou avec En Marge d'Homme, mais en fait j'y arrive pas parce que le sujet qui vient...
En Marge de l'antisémitisme ?
Ouais, c'est encore un truc, pardon, qui va pas me faire marrer de 2 secondes. Alors je sais pas si vous connaissez, alors c'est un truc qui est apparu hein, sur Twitter, quelqu'un s'est agacé. Donc j'ai cru au début que c'était peut-être un canular, une fausse information, donc je suis allée vérifier avec mes petits yeux. Et vous connaissez peut-être ce site qui s'appelle Reverso,
oui.
C'est gratuit et rapide comme le dit le slogan.
Qui fait de la traduction.
Et qui s'est fait de la traduction. Et quelqu'un a relevé des trucs super classe et une traduction hyper intéressante qui dit in English Hitler was a lot nicer to the Jews when they deserved, qui est traduit par Hitler était beaucoup plus gentil envers les Juifs qu'ils le méritaient.
C'est un des exemples qui est donné.
Oui, parce que le but de Reverso, c'est voilà, Reverso, vous avez ouais. Donc par exemple nicer, vous cherchez à savoir ce que ça veut dire, vous le tapez et on vous met du contexte, des phrases dans lequel vous pouvez retrouver le mot.
Oui, c'est beaucoup plus performant que Google Trad où vous avez une traduction plus ou moins bien, mais vous n'avez pas le contexte, vous n'avez pas autre chose.
Ce qui fait que c'est comme ça que des fois vous avez des traductions à la Google, c'est-à-dire des choses qui sont sorties du contexte et donc du sens, et qu'un mot, avec un mot devant et un mot derrière, peut induire une autre traduction. Donc il y a ça qui a été relevé.
Alors en exemple, c'est pas mal. Du coup, ils ont au sein de Reverso un antisémite notoire, c'est ça.
Alors, d'autres cas ont été relevés. Dachau was so much nicer than Auschwitz. Dachau était beaucoup mieux qu'Auschwitz.
Ouais.
Avec mes petits doigts, et je peux vous dire que j'ai tapé les lettres les unes derrière les autres, avec un doigt, j'ai tapé Jewish, juif.
Et alors, ça donne quoi ?
J-E-W-I-S-H. Bah, j'ai trouvé des trucs merveilleux. Et alors, j'ai trouvé Budge Jewish Blood is so malicious. It just spreads everywhere. Mais le sang juif est tellement pernicieux, il se répand partout.
Oh putain, non, mais c'est énorme.
Vous voyez que j'ai pas pu blaguer sur En Marge d'Homme.
Et alors, mais du coup, il y a des poursuites
Je sais pas. Alors, quelqu'un a lancé ça sur Twitter. La LICRA a retweeté la chose. Moi, au début, je me suis dit, ouais, c'est encore une bêtise de Twitter. Vous voyez, des fois, ça arrive hein, que des gens. Je suis allée donc vérifier. Hein, voilà. Puis d'autres ont fait exactement les mêmes recherches que moi, sont tombés exactement sur les mêmes choses. Mais j'avoue que là, le sang pernicieux.
Alors, du coup, c'est un vrai acte volontaire, hein, puisque c'est des exemples qui sont donnés, donc il y a des gens qui ont tapé ces exemples et qui ont vraiment écrit ces phrases.
Alors, je ne sais pas comment les exemples sont créés, ça, j'ai pas réussi à le trouver. Il faut juste rappeler que Reverso, ça a été fondé par un gars qui partait d'une belle idée, justement, de créer un traducteur avec du contexte et du sens, qui a travaillé avec des universitaires, qui a développé son machin. Il y a des applis, il y a des tas de trucs maintenant. Bon, mais alors que ça arrive, c'est quand même un truc de fou. On se demande comment ça a pu passer à la trappe aussi longtemps. Voilà. Je sais pas. Il n'y a rien d'autre à en dire. Dachau était beaucoup mieux qu'Auschwitz, c'est quand même. En termes d'exemple, pardon. Puis que savoir que Hitler était plus gentil avec les juifs qu'il le méritait, ça aussi c'est quand même.
Il y a
de la recherche.
C'est pas mal.
Ce qui me demande maintenant, c'est qu'on aurait pu peut-être s'amuser avant de venir à taper d'autres mots.
Un peu limite pour voir comment ils ont utilisé.
Le mot juif est pas limite.
Oui. Non, mais je veux dire.
Parler d'Hitler, c'est pas limite, mais c'est la répercussion.
Là où on peut avoir des propos limites. Oui,
c'est ça, tout à fait. Donc, j'avais réduit ta pensée. Donc, je pense qu'on peut peut-être taper d'autres choses pour voir effectivement ce qu'on pourrait trouver. Voilà, parce que bon, là, je m'arrête là dans la démonstration, mais c'est assez moche.
Ouais, on espère qu'il va se passer quelque chose.
J'ai l'impression que c'est sur l'antisémitisme, si vous êtes sur les réseaux sociaux, moi je suis pas sur Facebook parce que voilà, mais peut-être que vous vous rendez compte que ça parle beaucoup de gens critiquent, accusent les racistes, mais au fond les racistes ils sont toujours là, les antisémites ils sont toujours là, et que voilà, il y a une haine assez terrible qui se répand sur les réseaux sociaux, qui se répand dans la rue, qui se répandent partout en fait. C'est-à-dire que vous allez me dire ça a toujours été là, mais là je pense qu'il y a quand même de la haine, parce que l'histoire du Fekalcro, peut-être que personne lui a dit sale juif, mais moi j'ai juste vu de la haine et j'ai entendu de la haine, et quoi qu'on pense de ce bonhomme que moi j'aime pas du tout, hein, qui attise lui-même la haine peut-être, en tout cas répandre la haine en lui répondant c'est pas notre style ici dans cette émission, c'est juste symptomatique et symbolique d'aujourd'hui ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on trouve aussi en manifestation et qu'on trouve dans beaucoup d'endroits quand même. Voilà, on termine par un truc pas drôle, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, le racisme, l'antisémitisme, c'est pas drôle, c'est comme ça.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h, on sera au mois de mars, et demain on sera aussi au mois de mars, et c'est le Canu Info du vendredi.
Donc en marge de toutes les émissions, vous pouvez nous retrouver sinon sur les blogs du Canu Info du jeudi, vous allez voir, c'est super. Ciao, ciao.